Décryptualité, semaine 41. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, au sommaire, nous avons 4 articles.
Oui.
Le Devoir.com, la liberté informatique, un nouveau contre-pouvoir. Un article, une chronique de Mathieu Bergeron. Donc Le Devoir, c'est un site québécois, je crois.
Qui parle des GAFAM et des différentes problématiques qu'on a sur Internet, liées à la vie privée notamment. Qui met en avant, bah voilà, les logiciels libres, hein, c'est la manière de se battre contre ce problème. Bah, on va en parler juste après.
Informaticnews.fr, Alterway s'apprête à rejoindre Smile, un article de Cepress.
Oui, c'est un pseudo. Je ne sais pas exactement qui est derrière. Bon, bah, ça parle d'entreprises françaises. Il se trouve que c'est dans l'actualité. Hein. Et voilà, ça bouge un petit peu. C'est pas des entreprises majeures dont on parle tous les jours, mais ce sont des acteurs qui peuvent être importants. Ils contribuent chacun à leur manière. Donc, c'est plutôt intéressant de voir comment ça évolue au jour le jour, voilà.
Next Impact, 4 associations demandent à Microsoft de participer aux surcoûts engendrés par ces patchs de sécurité. Un article de la rédaction.
Alors c'est plutôt intéressant, parce qu'effectivement, bah, c'est du logiciel privateur, hein, Microsoft. Il y a des mises à jour régulières, c'est plutôt bien, et notamment des mises à jour de sécurité, c'est plutôt important, nécessaire même. Parce que voilà, sinon on se fait vraiment avoir encore plus vite que ce n'est déjà le cas. Mais effectivement, bah, y a des coûts qui sont liés à tout ça, et ça fait pas plaisir. Donc on demande un petit peu aux auteurs de ces problèmes à ces surcoûts bah, de nettoyer un peu leur jardin, c'est pas simple.
Voilà, et ces associations, c'est pas des petites associations locales de libristes qui ont envie d'embêter Microsoft. Hein. C'est le CIGREF, qui est l'ex-club informatique des grandes entreprises françaises, CIO Platform Netherlands, et des trucs comme ça, donc des grosses associations de professionnels. Challenge, Thales Google, pourquoi Bercy a abandonné le cloud souverain ? Un article de Paul Loubière. Oui, Paul Loubière était un de mes enseignants à l'université.
Ah, donc un article bien, oui. Intéressant. Alors, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'effectivement, alors, on avait abordé le sujet, il y a des rapprochements entre les grosses boîtes françaises qui font du nuage, de l'informatique en nuage, et des boîtes américaines. Je rigolais la semaine dernière en faisant remarquer que, bah, on n'avait pas la compétence, nous, en France, pour faire ces systèmes de cloud. Et donc, effectivement, on demande aux Américains de venir nous aider, et oui, bah c'est ça, hein, c'est exactement ça. Et donc, en arrêtant ces idées de faire du cloud qui soit géré par des entreprises seulement européennes, eh bien, en arrêtant ça, et en passant sur une idée de cloud de confiance, on s'ouvre à la possibilité de faire venir des acteurs externes. Bon, c'est un petit peu rageant, c'est un peu embêtant.
Voilà, l'idée étant de payer des licences en disant « au moins, les serveurs seront chez nous ». Donc, une ambition assez réduite.
Bah, l'ambition, c'est notamment de ne pas être sous les fourches des lois américaines, en espérant que, voilà, on est hébergé chez nous, c'est des entreprises de chez nous qui gèrent ces données, et donc les lois américaines ne s'appliqueront pas, notamment le Patriot Act, qui permet aux États-Unis, aux institutions des États-Unis, de mettre les mains sur n'importe quelle donnée qui est hébergée par des entreprises américaines. Donc on espère sortir un peu de ça.
Oui, avec un peu de chance, il n'y aura pas de backdoor dans les technos utilisés par ces entreprises.
Oui.
Et puis peut-être qu'un jour, ces entreprises européennes apprendront les technos et développeront les compétences nécessaires.
Effectivement, hein, je pense que les backdoors, bah, c'est foutu. Hein, à partir du moment où tu as mis Microsoft Windows, c'est une grosse backdoor de fait. Hein, ils contrôlent plein de choses de plein de manières différentes.
Alors, notre sujet de la semaine sera un peu différent.
Voilà, c'est un sujet que t'aimes
c'est
beaucoup,
ça,
parce
oui.
que régulièrement, tu craches sur Apple, quoi, quand même.
C'est ça. Alors, la semaine dernière, on a taillé un short à Facebook. Bon, c'était facile.
C'était l'actualité.
Cette semaine, c'est le tour d'Apple. Ça faisait longtemps, moi, je pense. Et moi, j'aime bien, effectivement, dire du mal d'Apple. Et ce qui m'a donné envie de parler de ça, c'est un article que j'ai vu passer sur Internet, sur Tom's Guide. Et donc, c'est un article en anglais. Et il y a une étude qui a été menée par des chercheurs pour définir qu'est-ce que remontait comme information privée les téléphones Android par rapport aux téléphones iOS, donc les iPhones.
Donc c'est une étude qui a été menée par Douglas J. Leith. Ça a l'air d'être plutôt solide. Les gars, ils ont vraiment mesuré et ils ont mis au test des téléphones, des téléphones Apple et des téléphones Google.
C'est l'université Trinity College, donc à Dublin, en Irlande. Et les résultats sont intéressants, puisqu'il s'avère que les iPhones remontent beaucoup de données personnelles. Le volume est moins important que sur les téléphones Google. En revanche, la surface, c'est-à-dire le type d'informations qui sont remontées, est plus importante que sur les téléphones Google.
Effectivement, le volume, il est considérablement moins important parce qu'il y en a un, c'est quand on allume son téléphone, si je comprends bien, il envoie 1 mégaoctet de données, alors que l'autre, il en envoie que 42 kilos. Ça fait une sacrée différence.
Oui. En revanche, il y a certaines choses qui sont remontées par l'iPhone qui ne sont pas remontées par un téléphone Android. Et notamment, toute une série d'infos sur l'environnement réseau autour de l'iPhone. Donc ça remonte la localisation du téléphone, l'adresse IP du téléphone sur son réseau local, ça remonte l'identifiant réseau du Wi-Fi, donc l'adresse MAC du téléphone.
Petit détail, hein, l'adresse MAC, ce n'est pas une adresse Macintosh. C'est une adresse technique qui correspond à...
Je veux bien préciser.
Oui, parce que on ne sait pas forcément, je ne sais même plus d'où vient le terme hein, Mac, mais en tout cas, c'est une adresse technique qui est donnée par le constructeur d'un appareil à sa fabrication. Et donc, c'est assez unique et c'est plutôt difficile à changer. Donc, ton téléphone a une adresse Mac, mon ordinateur a une adresse Mac, ma télé un peu connectée a une adresse Mac. Tous ces objets, à partir du moment où ils sont connectables, ils ont une adresse physique qui a été donnée à leur naissance. Et donc... Voilà. On la change pas cette adresse, et si tu es connecté dans un réseau local, que ton téléphone Apple a cartographié le réseau local et a cartographié les adresses MAC de tous les appareils qui y sont à un moment donné, eh bien on sait que dans un autre réseau, s'il y a la même adresse MAC qui se retrouve, on sait que c'est le même appareil globalement.
Voilà, c'est un identifiant unique.
Exactement, donc est très difficile à changer, ça se change mais c'est pas donné.
Alors autre découverte, donc, c'est que ce soit de l'Android ou de l'iOS, les téléphones sont extrêmement bavards, y compris quand ils sont éteints ou déconnectés. Donc toutes les 4 à 5 minutes, il y a des infos qui partent, y compris sur l'iPhone. Donc quand l'utilisateur s'est déconnecté de son compte Apple, l'iPhone continue à envoyer des cookies au service iCloud, sur Siri, iTunes Store, Apple Analytics, alors même que le téléphone est en veille et que l'utilisateur est déconnecté.
Bon, des données qui correspondent à certaines applications, donc on pourrait presque s'attendre à ce que ça les envoie. Hein. Et puis, en même temps, pour les services comme Siri, c'est un peu normal que ça continuellement écoute
le téléphone. Le téléphone est en veille, l'utilisateur est déconnecté. Alors bon, il continue aussi à surveiller ce qui se passe autour, au niveau réseau. Et voilà, donc la conclusion de l'analyse, c'est qu'au final, qu'on soit sur iOS ou sur Android, finalement, la collecte de données est quand même très similaire et remonte à peu près les mêmes choses, avec cette différence entre volume et la qualité, en quelque sorte. Hein, c'est qualité contre quantité. Ce qui permet de dire qu'un iPhone surveille tout autant ses utilisateurs qu'un téléphone Android.
Tu dis ça parce que on en a parlé la semaine dernière déjà, mais régulièrement, il y a plein de gens qui aiment beaucoup les appareils Apple et qui font remarquer que le business model d'Apple n'est pas le même que Google. Google, ils existent grâce à la publicité. Et pour faire de la publicité efficace, mieux vendue, il faut bien connaître les clients vers lesquels elle est destinée. Et Apple, ce n'est pas son business. Son business, c'est de vendre du matériel. Et donc, au nom de ce mécanisme-là, plein de gens qui aiment bien Apple, souvent, considéraient que Apple n'avait pas intérêt à écouter ce que faisaient ses utilisateurs, ses clients. C'était pas nécessaire à son fonctionnement.
Oui, c'est un argument qu'on a souvent entendu dans les milieux libristes ou afférents sur les libertés informatiques, avec cette idée que Apple, c'était un moindre mal, avec cet argument que tu as avancé, et qu'au final, ces données étaient mieux protégées quand on était dans cet environnement-là. Par ailleurs, Apple a beaucoup mis l'accent cet été et depuis quelques temps sur la protection des données personnelles, en faisant vraiment un gros argument de vente pour essayer de capter des clients en disant que chez nous, vos données sont bien protégées.
Et historiquement, on se rappelle, ils avaient protégé des téléphones même de terroristes quand la FBI avait voulu débarquer et les débloquer. Eux, ils avaient dit, techniquement, on peut même pas accéder à nos propres téléphones, ils sont bloqués, quoi.
Oui, il avait fallu qu'ils les piratent en allant chercher les services d'une entreprise spécialisée là-dedans. Et ça, c'était donc le gros argument d'Apple, qui a fait vraiment de la pub dans ce sens-là. Mais il y a un certain nombre de choses qui ont fait grincer des dents. Notamment, cet été, il y a eu le fait que Apple mette en place des systèmes pour surveiller les communications, notamment pour détecter la pédophilie. Donc, ils ont dit en application de la loi. Mais on voit que de temps en temps, quand le FBI, aux États-Unis, ils respectent la loi puisque rien ne les oblige à le faire. Mais en tout cas, ça a fait grincer des dents en disant de toute façon, vous avez la capacité de lire tous les messages et de surveiller tout ce qui se passe sur le téléphone. Donc, même si c'est l'application de la loi, la protection de ces données personnelles n'est vraiment pas garantie. Et maintenant, cette affaire montre que, en termes de surveillance, ils ne font pas mieux que les autres.
Alors, moi, j'argumenterais et je te dirais, ils ont intérêt et il vaudrait mieux qu'ils le fassent bien et souvent. Ils ont bien intérêt à détecter les crimes. Et les crimes horribles, comme les crimes sur enfants, par exemple, ça fait partie des choses. S'ils peuvent les détecter, et s'ils peuvent les empêcher notamment, ils ont fortement intérêt à le faire, sinon c'est non-assistance à personne en danger, et c'est vraiment moralement très répréhensible. Et donc, à partir du moment où ils ont ce pouvoir-là, ils se doivent de l'utiliser.
Oui, on peut dire ça. La question c'est, un, est-ce qu'ils en sont capables ? On a vu la semaine dernière avec Facebook à quel point ils sont incapables de prévenir un certain nombre de choses, et de comprendre ce qui se passe sur les téléphones. Ensuite, tu pourrais élargir cette question à énormément de crimes, parce qu'il y a des assassinats, il y a des tas de choses qui se font. Ils sont bien réfugiés derrière les principes pour ne pas donner les secrets dans une enquête de meurtre, qui était le cas que tu citais tout à l'heure, quand il a fallu pirater les iPhones. Soit effectivement, il y a une exploitation, parce que tu dois prévenir tous les crimes, et tu collabores avec la justice, etc. Mais c'est un peu délicat.
Tu sais quoi, ça me fait penser beaucoup au secret de la confession. Secret sacro-saint, oui. Et on s'est rendu compte qu'au nom du secret sacro-saint, on avait protégé des crimes horribles pendant des années, oui. Puis peut-être même pendant des siècles et des millénaires, hein, soyons honnêtes. Et donc là, bah, Apple se retrouve un peu dans cette situation-là, ils ont des secrets, ils sont les gardiens de nos secrets. Alors là, je parle des GAFAM en général, hein, même.
Oui.
Mais ils ont une responsabilité aussi de suivre la morale, l'éthique, et d'appliquer des principes un peu humains, quoi.
Mais... là, pour moi, la différence, si tu as le secret de confession, c'est que tu as une oreille d'un humain intelligent qui comprend ce qu'on lui dit et qui doit faire le choix moral d'en parler ou pas. Alors que là, c'est des données qui sont collectées en masse. La capacité de ces intelligences artificielles à détecter des cas réels, elle n'est pas évidente. On sait que, notamment pour calibrer tous leurs outils de reconnaissance vocale, ils écoutent des tas de conversations privées. Et là, on n'est pas du tout dans la défense du droit, etc. Et puis après, il y aura toujours quelqu'un pour te dire que le danger réel, il est là maintenant tout de suite. Hein, Apple vient juste de céder face au gouvernement chinois en retirant une application sur le Coran dans le périmètre chinois. Donc, bah, ils font ce que le gouvernement chinois leur demande de faire. Ce qui va à l'encontre de leur position extrêmement courageuse de défenseur de la liberté en refusant de donner accès au téléphone de ce type. Donc, il y a ce côté complètement deux poids et deux mesures. Et puis Apple est une compagnie, ce n'est pas une personne. Donc on peut demander à une personne de faire des choix moraux. Une compagnie ne peut pas faire de choix moraux, c'est pas une personne, c'est pas un individu, c'est pas une intelligence.
Non, mais on peut essayer de mettre en place des contre-pouvoirs et de garantir un équilibre. Donc éviter que justement des gens qui ont trop de pouvoir en abusent.
Oui, oui, et ça s'appelle la politique. C'est pour ça qu'on a établi des machins qui s'appellent l'état de droit, qui, tout aussi imparfait qu'il soit, il y a énormément de progrès à faire et c'est un combat de tous les jours parce que c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est quelque chose qu'il faut défendre, entretenir, parce que, pour moi en tout cas, le mouvement naturel des sociétés et des relations de pouvoir, c'est des gens qui vont essayer d'en avoir de plus en plus, d'instaurer leur arbitraire et d'en profiter. Aujourd'hui, ces grosses entreprises, ces gros GAFAM, dont Apple fait partie, ont un pouvoir exorbitant et il n'y a pas de contre-pouvoir parce que ce ne sont pas des états de droit, ce sont des compagnies privées.
Alors je sais que tu seras d'accord avec moi, hein, tu l'as déjà dit, mais on est d'accord tous les deux, le pouvoir corrompt. Et donc, moi, pour le bien des GAFAM et le bien des acteurs qui ont ce genre de pouvoir-là, je leur recommanderais d'abandonner leur pouvoir et d'aller vers de la décentralisation, vers des services distribués, du logiciel libre, des petites communautés qui peuvent réagir et distribuer ce pouvoir entre eux pour que la corruption
oui.
soit moins intense sur des individus. Je veux dire, c'est Frodon en train de transporter l'anneau de pouvoir et je veux pas qu'il souffre, quoi. Il faut qu'il se monte en chaton. Il faut qu'il devienne des chatons.
Écoute... Je suis pas sûr que ça marche, parce que la recherche du pouvoir absolu et les millions, etc., il y aura toujours des candidats. Pour moi, en tout cas, à notre niveau d'utilisateur, cet argument de dire Apple, c'est le moins mauvais choix, venant de gens dont on apprend en fait qu'ils ont tout dans Apple, c'est-à-dire qu'ils ont le téléphone, ils ont le Mac, ils utilisent tous les services Apple, pour moi, c'est quand même un choix un peu con. Face à cette considération générale en disant que ce n'est pas dans l'intérêt d'Apple de faire ceci, cela, moi j'ai une autre considération générale qui est que toute entité est en position hégémonique, elle aura tendance à en abuser. Donc le minimum qu'on puisse faire, c'est de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et donc même si on a un iPhone, d'éviter d'avoir toute sa musique, tous ses messages et toutes ses données dans le même environnement.
Bon, sur ces bonnes pensées et en recommandant à tout le monde d'aller s'inscrire sur des chatons, hein, ou de monter et de construire des chatons, donc des logiciels libres décentralisés, c'était notamment...
Des services, oui, et hébergés par des vrais humains.
Voilà, et donc là, on va espérer que de plus en plus de monde s'y mette, hein, ça sera positif. Allez voir sur Framasoft, hein, c'est eux qui avaient lancé l'initiative chaton. Vous verrez un petit peu, c'est pas juste un mot jeté en l'air. Et sur ces bons mots, je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, bonne semaine à tous, salut.